Un bon boulot, témoignages et discussions sur les grandeurs et les misères du travail. Selon Christophe Dejour, médecin, le travail est une promesse d'accomplissement de soi, souvent non tenue. Comment faire de son travail à la fois un plaisir, une source de reconnaissance et une source de revenus? Salariés, entrepreneurs, artistes, les parcours sont multiples et les trajectoires singulières, hybrides, mais toujours riches d'enseignements. Nous parlons métier, épanouissement au travail, nous cherchons aussi à comprendre comment un bon boulot pourrait devenir un sale boulot. Aujourd'hui, nous posons la question du travail dit alimentaire, que l'on pourrait définir comme une activité rémunérée qui a comme premier et parfois seul intérêt d'en permettre une deuxième, comme celle d'écrire, de peindre, de faire de la musique ou d'exercer toutes sortes de passions généralement peu rémunératrices. Pour cela, j'ai invité aujourd'hui Thierry Goulois, co-réalisateur de cette émission Un bon boulot, musicien, peintre, producteur d'une autre émission de Radio U sur la musique New Wave, mais aussi magasinier de bibliothèque. Donc, bonjour Thierry.
Bonjour Hervé.
Alors, pour introduire le sujet, on va d'abord tout simplement écouter un morceau de musique que tu as composé, puis après on va en parler. Donc tu as composé ce morceau, mais sans te mettre au piano, je crois. Est-ce que tu pourrais raconter comment tu composes ce type de musique? Actuellement, tu en fais beaucoup en plus.
En ce moment, j'en fais vraiment beaucoup. Comment je compose? En fait, j'ai un ordinateur avec un logiciel qui est multipiste, comme il y a beaucoup de logiciels aujourd'hui qui existent, comme Cubase, GarageBand, Reaper. Et j'utilise aussi un arpégiateur, c'est un truc qui fait des boucles. Alors en fait, Tu joues quand même des notes, mais ces notes que tu vas jouer déclenchent d'autres notes.
Mais sans jouer sur un piano, comment tu vois le rythme, là, il est très marqué.
Alors en fait, le rythme, c'est toi qui le choisis. Tu choisis le rythme que tu veux obtenir.
Et après, tu le choisis ou tu le composes?
En fait, c'est un peu embidouillant. Si tu veux, tu choisis un rythme qui est déjà un peu pré-programmé dans la machine. Et après, tu fais des essais, tu choisis celui qui te correspond, celui que tu cherches le plus, quoi. Celui qui te plaît le plus.
D'accord.
Et puis après, tu le sélectionnes. Et ensuite, en fait, moi, je fais tout. Soit j'ai un petit clavier, mais je ne l'utilise pas beaucoup. En fait, j'utilise les touches de l'ordinateur, tout simplement. C'est-à-dire que les touches sont assignées à une note.
D'accord. Et pourquoi passer par un ordinateur et pas par un piano pour faire une musique de piano?
Parce que je ne suis pas capable de... Je ne suis pas instrumentiste. Je ne suis pas capable de jouer, en fait, ce morceau-là qu'on vient d'écouter, je serais incapable de le jouer. J'ai fait du piano quand j'étais enfant, mais j'en ai fait 2-3 ans. Ensuite, j'ai arrêté. Je n'ai pas repris par la suite sérieusement. Je ne suis pas en capacité de jouer tout ça. Mais par contre, j'arrive à les fabriquer, mais avec ces outils-là. Si je n'avais pas ces outils informatiques d'aujourd'hui, je pense que je ne pourrais pas produire autant de musique que je ne produis en ce moment.
Et la musique, tu l'entends, tu lances des choses, il y a des trucs qui se passent, tu sélectionnes, comment...
Ouais, c'est un peu tout ça à la fois. Des fois, j'ai une idée de départ, mais finalement, elle va s'effacer et puis laisser place à une autre idée qui va arriver, soit par un accident, des fois en manipulant l'ordinateur. Parce qu'en fait, je déplace des petits carrés, tu vois, sur un écran qui correspond à des notes. Des fois, il y a des erreurs et des fois, il y a des accidents qui sont heureux. Donc ça, tu les gardes.
Oui, c'est des affines, enfin comment tu affines au fur et à mesure.
Voilà, en fait, c'est vraiment un travail de collage et que tu affines petit à petit. C'est beaucoup d'heures, en fait, passées devant un écran pour produire. Alors des fois, il y a des coups de grâce hein, où tu vas pouvoir produire un morceau très rapidement, mais c'est assez rare quand même. Il faut vraiment passer beaucoup de temps. Ouais.
Et bon, avant de passer à la suite, je sais que tu es en train aussi de faire un travail pour les diffuser.
Oui.
Alors comment ça se passe d'abord? Bon, on peut dire que tu as produit, je sais pas, une douzaine de morceaux, là, c'est ça?
Là, j'ai produit une vingtaine de morceaux, en fait, depuis le mi-juillet jusqu'à mi-septembre.
Qui sont déjà en ligne sur...
Ils sont en ligne sur YouTube et sur SoundCloud. En fait, tu es un peu obligé, parce que quand tu vas décider de démarcher auprès de labels, si tu veux être produit et distribué par ce genre d'organisme, ils demandent à ce que tu aies des comptes, en fait, avec tes musiques qui sont stockées, parce que ça leur évite, si tu veux, de gérer des fichiers, de télécharger, d'avoir des virus éventuellement. Voilà. Donc en fait, ils te demandent de créer une playlist où tu mets tes morceaux et tu leur communiques le lien et après, eux, ils vont écouter tranquillement, si ça
D'accord.
leur plaît ou pas.
Et tu as pris contact avec des gens capables de t'aider à diffuser?
Alors moi, ce que j'ai fait là, c'est que j'ai cherché en fait des noms de labels, parce que bon, des labels, il y en a pléthore.
Comment tu les choisis hein?
Bah, je l'ai choisi en fonction de leur catalogue.
Oui.
J'essaye de correspondre à peu près. Tu vois, par exemple, là, j'ai fait une erreur. Parce que bon, sur la masse, tu as toujours des erreurs. J'ai envoyé mon fichier de piano à une maison de disques qui produit Barbolivien. Didier Barbolivien.
Je connais pas.
C'est un chanteur qui chante. Enfin, il chante pour lui, mais en fait, il écrit des chansons pour Sardou, des gens comme ça, quoi.
D'accord.
C'est pas vraiment le même univers que le mien.
Non.
Donc la responsable du service m'a répondu « J'ai bien aimé vos musiques, mais ça ne correspond pas à ce que nous on fait, ce que j'ai très bien compris d'ailleurs. »
D'accord, tu aurais peut-être dû écouter un peu avant ce qu'ils produisaient. Ouais.
Bah, si tu veux, le problème c'est que je fais des envois en groupe. Quoi. Vraiment, j'envoie beaucoup de...
Ah, tu fais de la grosse artillerie.
Ah ouais, c'est comme si j'allais distribuer des prospectus dans les boîtes aux lettres, quoi, si tu veux.
Ah d'accord.
J'envoie des messages à tout le monde, donc j'ai fait un texte type où je me présente, j'essaye de mettre un peu d'humour là-dedans, et je mets les liens, et puis après j'attends de voir si ça touche ou pas. Quoi.
D'accord. Bon, on n'y est pas encore, mais ouais. Déjà on peut imaginer une façon, quelque chose, un moyen de se rémunérer avec une activité comme ça, si elle fonctionnait.
Bah, moi en fait, mon objectif, ça serait... pas vraiment de faire de la scène parce que je m'en sens pas capable et puis je vois pas trop l'intérêt de jouer ces musiques-là avec des machines comme font certains DJ. Enfin, quoi que le DJ est plus créatif parce qu'en fait il joue quand même une partie de ce qu'il balance sur scène, il le joue quand même.
Oui, il y a une part de live.
Voilà, il y a une part de direct. Moi, je me sens pas capable de ça. Donc moi, si tu veux, je me verrais plus dans la musique de film ou de documentaire ou des choses comme ça, quoi. Des trucs pour illustrer des images.
Quel système commercial est associé à quelqu'un qui produit des films pour des documentaires, des images, etc.
Bah, t'es auteur.
T'es auteur et donc effectivement t'es payé en droit d'auteur.
En fait, si tu veux, moi je me servirais du label parce que bon, le label il a des connexions dans le milieu, donc dans les radios, dans des producteurs peut-être de cinéma, enfin voilà, en tout cas c'est ce que j'imagine. Je pense qu'il y a des connexions entre les différentes formes d'art. Et donc, je me dis, bah, peut-être qu'un label peut m'aider à me connecter avec quelqu'un qui cherche des musiques pour un documentaire ou pour un dessin animé ou autre.
Oui, en Bretagne, on a un exemple avec Yann Tiersen, par exemple, qui a fait des films carrément. Ouais,
mais enfin, bon, tu parles de Mélie Poulain?
Oui, par exemple. Ouais.
Ouais, mais enfin, les musiques existaient déjà. Enfin, je n'ai pas souvenir qu'il en ait créé beaucoup, en fait, pour le film. Je pense que. Moi qui écoutais ses albums à l'époque, il avait déjà sorti quand même pas mal de trucs qui sont dans le film.
D'accord, on a exploité.
C'est plutôt le réalisateur qui a aimé les musiques de Yann Tiersen et qui les a reprises après et les mises dans son film.
Ouais, c'est encore plus idéal, ça, ouais. Bon, on voit dans quoi tu es embarqué maintenant. Et tu es aussi embarqué dans ton activité professionnelle avec laquelle tu gagnes ta vie, qui est... on reviendra sur la peinture et la musique, hein, mais... Tu es magasinier de bibliothèques. Est-ce qu'en quelques mots, tu pourrais présenter ce, ce métier de magasinier de bibliothèque dans une bibliothèque universitaire.
Ouais, en gros, tu as du service public déjà. C'est la grosse partie, c'est presque la moitié de ton temps en fait, qui est consacré à ça.
C'est-à-dire là, tu accueilles les gens.
C'est-à-dire que tu es derrière une table, ils t'accueillent les gens, ils te demandent ce qu'ils ont besoin, tu essayes de répondre à leurs demandes le mieux que tu peux. Et puis, donc tu prêtes les livres, tu fais les retours, tu ranges les bouquins. Mais en amont aussi, tu reçois les livres que les acquéreurs ont commandés. Tu les équipes, c'est-à-dire que tu les tamponnes, tu les couvres, enfin tu mets les antivols, enfin tu les équipes, c'est ce qu'on appelle équiper. Et ensuite tu les rentres dans le logiciel pour qu'ils soient dans le catalogue, pour que les gens puissent savoir qu'il y a le bouquin qui est disponible à la bibliothèque. Donc voilà, tu as des différentes étapes comme ça de travail qui sont sympas à faire. Hein. Bon après, sur la durée, moi ça fait plus de 10 ans que je suis en poste. J'en ai un peu fait le tour, mais en même temps, voilà, moi, c'est parce que j'ai autre chose à côté. C'est pour ça que je me suis jamais lancé dans les concours pour passer catégorie supérieure. Parce que voilà, moi, j'ai...
Oui, parce qu'après, on peut devenir bibliothécaire, conservateur.
Oui, il y a tout un chemin possible, mais moi, je n'avais pas envie de m'investir plus que ça, quoi. C'était vraiment un travail alimentaire.
Bon, on va revenir, mais avant d'aller jusque-là, on va revenir à cet endroit-là. Pourquoi choisir? Pourquoi ces choix? Avant de revenir à ces choix-là, on va plonger dans l'adolescence.
Oui.
Comment, alors trois questions en une. La question du boulot, c'est une question d'argent, c'est une question d'investissement aussi, c'est-à-dire on peut être par exemple musicien, donc on s'investit personnellement, etc., et on en fait un métier. Et c'est une question d'orientation professionnelle, de compromis avec les parents, etc. Donc, première question, comment la question de l'argent s'est posée à toi, déjà, tout petit, parce que là, quand on est petit, on n'a pas de conscience de ce qu'est l'argent.
Je n'avais pas spécialement conscience de ce qu'était l'argent, surtout qu'à la maison, mon père gagnait bien sa vie et on n'avait pas de problème particulier lié à l'argent, quoi. Enfin, on n'habitait pas dans une super baraque, on était en HLM, mais... On était confortable, on partait en vacances, on mangeait bien. Enfin, voilà, on était dans des Français moyens, quoi.
Mais après, ensuite, à un moment, t'as besoin d'argent de poche, t'as besoin d'acheter quelque chose. Tout ça, comment ça se passe à ce moment-là?
L'argent de poche, mes parents m'en ont toujours donné, en fait. Ils ont été assez généreux. Enfin, j'ai jamais eu de soucis de ce côté-là.
Et
j'ai travaillé une fois pour quand je devais avoir 16 ans, je pense. Pour mes vacances, soi-disant, voilà, pour payer mes vacances, mais c'était juste parce qu'ils avaient envie que je fasse une expérience de ce qu'était vraiment un peu le travail. Quoi, parce que
c'était quoi cette première expérience professionnelle?
Alors, j'étais dans un grand hangar et je découpais en fait des morceaux de papier peint dans des rouleaux pour faire des catalogues de papier peint.
Ah oui, c'est
alors basique. J'étais debout derrière une table toute la journée avec un cutter et puis je coupais des carrés de papier peint à un format précis. Et voilà, donc je faisais ça toute la journée en écoutant les radios FM qui commençaient à diffuser à l'époque. Ouais.
Donc à la fois tu bosses et en même temps tu t'échappes par la musique. Quoi.
Voilà, ouais.
Et comment tu l'as... Un mois tu as fait ça, c'est ça?
Oui.
Comment ça s'est passé? Tu l'as vécu comment? C'est une saison en enfer ou...
Bon, je l'ai vécu avec avec hâte que ça se termine, en fait, parce que j'ai pas
ouais, mais sans souffrance particulière.
Non, puis en même temps, bon, c'était un ami à mon père qui était responsable qui était chef de service là-bas, dans cette boîte, qui avait trouvé le boulot pour moi, donc j'étais quand même peinard, quoi. Enfin, il me foutait pas
d'accord,
trop la pression.
Ouais. Ouais. T'as pas été soumis à...
Non, j'ai pas eu de... Non, par contre, c'était juste le midi, c'était dans un endroit, dans une zone industrielle, donc il y avait rien, c'était que des hangars partout. Pour manger, il n'y avait pas de lieu spécial, donc enfin, c'était pas terrible. C'était des sandwichs, tout ça. Enfin, bref.
Mais bon, tu as eu de l'argent au bout, ça fait quelque chose à 16 ans d'avoir le résultat de son salaire.
Ça m'a rien fait du tout. En fait.
Non.
Moi, ça m'a pas. D'accord. J'ai pas trouvé ça très intéressant.
Ok. Et à ce moment-là, 16 ans, est-ce que tu es déjà titillé par musique et peinture?
Alors. La musique et la peinture, ça a toujours fait partie de ma vie parce que enfin, depuis que j'ai 4 ans, je me souviens, j'ai des images de moi dans ma chambre, assis devant mon pick-up en écoutant des disques, en restant des heures à écouter des disques.
Ah oui.
Et Ma mère m'a beaucoup emmené au musée, elle m'a initié un peu à la peinture, au dessin. J'ai toujours dessiné. Par exemple, elle m'a acheté un pyrograveur à l'époque, je ne sais pas si tu te souviens.
Si, si, moi je crois avoir eu ça aussi. C'est un truc, tu chauffes et tu fais des dessins sur le bois.
Voilà, exactement. Ouais. Enfin bref, j'avais tout un tas de trucs qui étaient disponibles pour m'exprimer dans les arts plastiques par ma mère. Ma mère était intéressée par la peinture, elle avait essayé de dessiner aussi quand elle était jeune. Enfin voilà, c'était un truc qu'elle avait envie de transmettre.
D'accord, ouais, il y a un milieu là. Et la musique aussi, tu as pris des cours, je crois.
Oui, j'ai pris 3 ans de cours de piano avec du solfège et tout, mais en fait, je ne m'entendais pas trop avec ma prof. Donc, j'ai voulu arrêter, et puis après, j'ai eu la flemme de reprendre. Et j'ai repris finalement un peu plus tard, vers 16-17 ans, avec des copains pour faire de la musique new wave.
Ouais, tu as eu un groupe de rock
Oui,
d'un an, mais un groupe quand même.
on
Pendant
a
un
eu
an,
un
vous avez
groupe qui
joué,
s'appelait
ouais.
38e Parapluie.
Ok, pas mal.
Au départ, ça s'appelait les Matins Blêmes, mais
Oui, je
il
vois
y avait
le.
discussion entre les membres du groupe. Parce que le groupe était scindé en deux, il y avait vraiment les sombres, c'était moi et mon cousin.
Ma New Wave, t'étais déjà pas mal
Ouais,
sombre.
mais et puis il y avait l'autre côté plus gay, Jean-Marie et Émile, qui eux voulaient quelque chose de moins teinté, sombre, quoi.
Donc ils allaient sur l'absurde.
Oui, ils allaient plus sur l'absurde. Et c'est eux qui avaient raison, finalement.
Je pense, ouais. Mais bon, laissons. Cela ne nous regarde pas, diraient les inconnus. Ouais, dans la New Wave, ouais, c'était. Moi, je m'en souviens, c'était sombre. Ouais. Bref, tu avais un groupe de musique, tu peignais, tu dessinais, et quand même, à un moment, soit c'est toi qui te poses la question, soit on te l'amène tout servi sur un plat et on te demande d'y répondre sur la question de l'orientation professionnelle, du choix scolaire, etc.
Alors ça c'est un grand souvenir, l'orientation professionnelle, parce que on m'avait emmené visiter un lycée technologique
Ah.
pour faire une seconde T1. Et je me souviens qu'on était rentré dans un grand atelier où il y avait des tours pour fraiser, pour faire des choses comme ça. Et je me souviens enfin c'était le film de Chaplin, quoi, c'était les temps modernes. Tu avais des casiers en métal où les gens mettaient leur blouse, tu avais une grosse horloge au-dessus de la porte. Je me suis dit, je vais pas m'enfermer là-dedans.
C'est une usine pour vous aider à choisir votre métier. On vous amène visiter une
Bah,
usine.
non, c'était pas une usine, c'était un lycée
Ah oui, un
technique.
lycée technique, ça ressemble à des usines,
Mais ça ressemblait à
effectivement.
une usine, quoi.
Ouais.
T'as les profs qui sont en blouse bleue, t'as l'impression que c'est un contremaître. Enfin, moi, vraiment, j'ai eu les images de Chaplin qui se sont collées à ce truc-là. Je me suis dit, je vais jamais aller là-dedans. Du coup, quand on m'a demandé ce que je voulais faire, j'ai dit, je veux faire agriculteur.
Ah ouais.
Ouais, pour un gars qui vit en HLM, qui a jamais vu un champ.
Comme ça, t'es sûr de ne pas tomber dessus.
Bah, je me suis quand même inscrit, mais alors pour aller dans un lycée agricole, c'était plus compliqué que pour aller en seconde T1.
Ah
Parce que
ouais.
ouais, curieusement, il fallait déjà. Bon, déjà, ton dossier était étudié, mais il fallait passer un examen.
D'accord.
Ouais. Et en plus, les fils d'agriculteurs partaient avec des points d'avance.
Oui, parce qu'on peut imaginer qu'ils ont le métier,
Ils ont le
etc.
métier, puis ils ont une exploitation à reprendre. Enfin
Ouais.
voilà. Donc finalement, moi je me suis retrouvé là-dedans à passer cet examen. Quand j'ai eu l'explication de texte en français, c'était que des termes agricoles que je ne connaissais pas. Donc voilà, j'ai été éliminé. Donc je me suis retrouvé en lycée en BEP horticulture.
Ah, t'as descendu d'un cran pour tomber
Ah
dans le
bah,
BEP, mais horticulture quand même, ouais.
j'avais pas trop le choix. Mais en
D'accord.
fait, moi, ma vision à l'époque, hein, parce que je voulais aller vivre dans le Larzac, élever des moutons, enfin voilà, c'était un
Oui.
truc un peu. Enfin, ça, je te parle de ça, c'était en fin de quatrième, début de troisième.
Ouais, c'est 1980 par là.
Un petit peu avant, parce que
Oui.
moi, en 80, j'étais déjà New Wave, donc j'avais laissé tomber le Larzac et tout ça, c'était nos futurs, quoi.
Oui, c'est 76, 77. Ouais,
Ouais.
ouais, ouais. Ok. Et bon, donc pas beaucoup d'attrait pour les boulots qu'on te propose.
En tout cas, pour l'orientation, moi, je ne savais pas du tout ce que je voulais faire. Enfin, déjà, je pense que j'avais un problème avec l'idée du travail, quoi. Enfin, je trouvais ça bizarre comme activité, de consacrer autant de temps à cette chose-là pour gagner des sous. Enfin,
C'est vrai.
j'étais un peu hors réalité, quoi.
Oui, moi je me souviens bien aussi, c'était un peu comme ça pour moi, mais à un moment, alors comment justement, c'est intéressant, parce que c'est une idée, alors on a du mal à, certaines personnes ont du mal à s'y faire quand ils sont jeunes, et puis à un moment elle s'impose. Alors comment, de quelle manière, quelles sont les étapes par lesquelles cette idée qu'à un moment tu vas travailler, tu vas gagner ta vie, s'est imposée à toi, et quel chemin ça t'a fait prendre?
Alors cette idée, elle s'est imposée aussi par le fait que mon père m'a dit, bah écoute, t'as arrêté l'école, maintenant faut aller bosser. Donc ouais, ça, c'est, voilà, c'était ça, déjà c'est... assez simple.
Ouais. À quel âge ?
Bah, j'avais 17 ans et demi, parce que en fait, mon BEP Particle, je l'ai un peu arrêté avant la fin, parce que ça ne me passionnait pas.
D'accord.
Donc, quand j'ai cessé d'aller à l'école, mon père m'a dit, bah, maintenant, tu vas bosser. Donc, il regardait les annonces même pour moi, tu vois, donc il était très motivé.
Il était très motivé, lui, ouais.
et donc, je me suis dit, bon, bah, là, il faut faire quelque chose, parce que bon, je ne peux pas rester à la maison, et puis... aller de conflit en conflit avec mon père parce que je travaille pas, parce que j'ai pas envie de bosser, parce D'accord. que j'avais pas spécialement envie de travailler, en fait.
Ouais.
Mais j'ai eu cette idée géniale. Okay. je me suis dit, il faut que j'aille dans un endroit protégé.
Ouais, alors, quel endroit?
J'ai pensé à l'éducation nationale.
Ah, tu le vois comme un endroit protégé, c'est de moins en moins, mais oui.
Oui, de moins en moins, mais enfin, protégé dans le sens où je me suis dit, ben voilà, il y a des vacances.
Ah oui, c'est ça, ouais.
Il y a du temps libre.
Ouais.
Il y a moins de pression qu'ailleurs. Il n'y a pas le chômage, parce que moi, je suis quand même, ça fait partie de la génération où on a été travaillé par cette question. On entendait parler du chômage à longueur de journée à la radio. C'était
oui,
choc
pétrolier.
On a été
les premières, les premières générations étaient exposées au chômage.
Ouais, tu te dis, bon, voilà. Donc, en fait, je me suis dit, il faut que je trouve un boulot dans l'éducation nationale. Donc, je n'avais pas vraiment d'idée, parce que je ne connaissais pas vraiment bien le milieu.
C'était une ambiance que tu cherchais, quoi.
Voilà, je cherchais plutôt une ambiance.
À l'écart du fracas du monde.
Voilà.
Et tu as trouvé quoi,
hein? Alors, en fait, on avait une amie qui bossait à l'université et qui m'a dit, bah, si tu veux, je connais des gens qui cherchent des vacataires pour faire... alors, j'ai fait de la peinture, pas de l'artistique, hein, de la peinture sur les murs en bâtiment. J'ai fait... courrier interne, donc me baladais avec des enveloppes, enfin j'ai fait plein le gardien de nuit, enfin j'ai fait plein de petites missions comme ça de plusieurs mois,
oui, plus ou moins intéressantes, tu disais, jusqu'à quand même un moment tu trouves un travail dans un laboratoire.
Ah, mais avant j'ai bossé à la fac du Kremlin-Bicêtre comme appariteur, c'est-à-dire que j'étais dans les amphis et je passais les diapositives pour les étudiants de médecine.
Ouais, c'est pas
et les films aussi. Bah, c'était pas terrible, mais enfin bon, voilà, c'était...
Tu peux apprendre la médecine en même temps.
Moi, ça le faisait pas parce que je suis un peu hypochondriaque et du coup, c'est pas un poste qui m'a réussi beaucoup.
Oui, oui. Ça pourrait faire un sujet de roman. Oui, donc, peut-être allons assez rapidement sur un endroit finalement qui te convient, où il y a comme une sorte d'équilibre, si j'ai bien compris, quand tu es dans un laboratoire, je ne sais plus trop ce que tu fais, mais ça se passe assez bien parce que tu es avec des gens très sympathiques, qui t'estiment. Et
que j'estime.
Et que tu estimes, ouais, c'est très important les deux. Et qui te demandent un travail qui est utile et nécessaire et que tu fais assez bien. Voilà, tu peux décrire un peu cet endroit ?
Bah, c'est un endroit, c'est à l'IUT d'Orsay. C'était dans un laboratoire de cryogénie. Moi, j'avais juste à préparer, en fait, le matin, j'arrivais de bonne heure, j'arrivais avant 7 heures pour préparer les manips pour les étudiants qui venaient au labo. Donc, je remplissais des appareils d'azote. Enfin, voilà, j'avais tout un tas de trucs à faire avant que les étudiants et le prof arrivent pour qu'ils puissent maniper tranquillement. Donc, je faisais ça. Et puis après, bah, une fois qu'ils avaient fini le cours, bah, moi, je rangeais le matériel. Je réparais éventuellement s'il y avait des choses qui étaient cassées ou abîmées. Et donc, ouais, je faisais partie d'une équipe de gens vraiment extraordinaires, des gens qui étaient passionnés tous par quelque chose. Alors, il y avait celui qui était passionné par la photo. Donc, celui-là, il m'a initié au labo photo, parce qu'il y avait un labo photo dans l'établissement.
Ah oui, c'est bien. Dans le cadre de ton travail,
t'as
développé quelque chose qui est plutôt relève de l'art. Ouais,
il y avait le passionné de jazz, donc qui t'amène des disques tous les jours pour te dire, tiens, il faut absolument que t'écoutes
ça. Ah ouais, ça c'était des collègues de boulot.
C'est des collègues de boulot, ouais.
Ah ouais, bien. Ouais.
Et donc, t'étais nourri, en fait, si tu veux, tous les jours, tu découvrais des choses, et puis dans une ambiance très très sympathique, on n'arrêtait pas de rigoler, enfin c'était vraiment très très sympa. D'ailleurs, c'est devenu des amis, j'allais les voir, je partais en vacances avec eux, enfin c'était autre chose que des collègues de travail purs et durs, quoi.
Un paradis, ouais, c'est...
D'ailleurs, je continue à les voir, hein, quand je vais à Paris, je les contacte et puis on se voit, on mange ensemble, on se rappelle le bon temps.
Ouais, moi qui m'interroge tout le temps sur le boulot, ben voilà, ouais, voilà une réponse à pourquoi le boulot peut être bien ou pas bien. En fait, déjà,
Ça dépend de l'équipe et ça dépend aussi du chef de service. Parce qu'on avait un chef de service qui s'appelait...
Ça dépend beaucoup du chef de service.
Qui s'appelle François Périnet, qui était vraiment un mec génial, qui mettait vraiment une bonne ambiance, qui nous emmenait même l'été, quand les cours commençaient, il commençait à y avoir moins de cours. On allait voir des expos avec lui sur le temps de travail.
Ah ouais.
Ouais. On allait voir au moins 2 expos dans l'année, soit de photographie, soit de peinture, avec lui. Enfin, c'était, il faisait partie de l'équipe, quoi. C'était un copain aussi. Voilà,
oui, puis qu'il faisait sans doute pour partager quelque chose, et pas forcément à la façon du management d'aujourd'hui. Où on va faire.
Lui, c'est un militant communiste, donc si tu veux, le management, ah oui. c'était ouais. pas trop son truc. Enfin, lui, il manageait, mais d'une autre façon. Oui, et finalement, ça marchait bien mieux, quoi.
C'est sûr. C'est
enfin,
sûr.
À mon avis.
Oui, moi, je le crois aussi. Bon, moi, le management, c'est un gros sujet. Ça n'a pas de suite d'aujourd'hui. Bref, tu es dans un endroit quand même pas mal, tu as un salaire, tu as une activité, ouais. ton père est rassuré, tu développes même des compétences en ce endroit-là, des compétences à la fois du côté de la culture générale, artistique aussi, et professionnelle sans doute. Et alors comment ça se passe là pour le côté créateur là ? Est-ce que tu... Parce que bon, 7 heures par jour, c'est 7 heures par jour. Hein. Qu'est-ce qui reste pour le reste ?
Bah, moi, comme je commence tôt, je termine tôt, donc je suis tôt à la maison. Je ne suis pas non plus exténué, hein. Je ne suis pas sur un chantier ou, voilà, ou dans un supermarché à empiler des boîtes de conserve. Donc j'ai assez d'énergie pour mener mon activité que j'ai choisie à ce moment-là, soit à la peinture, soit à la musique.
Voilà. Donc là tu fais quoi ? Tu fais t'as un atelier de peinture ?
Chez moi je n'ai pas d'atelier. Au départ je fais ça dans ma cuisine, c'est pour ça que je m'appelle Kitchen Toto, mon pseudo c'est ça.
Ah oui.
C'est parce que en fait j'ai commencé dans ma cuisine parce que c'était le seul endroit où il y avait un robinet avec de l'eau pour, oui, pour nettoyer les pinceaux et puis voilà.
Donc là tu peins en tout cas.
Ouais, je commence à peindre. Je commence à faire des petites expositions avec des amis qui font aussi de la peinture. On essaie de trouver des plans pour exposer. On a exposé à la Maison des Associations au Forum des Halles.
Comment vous trouvez ces plans là ? C'est pas si simple.
Bah, en fait, t'as des trucs qui sont organisés par les mairies d'arrondissement ou des choses comme ça. Là, c'était la Maison des Associations qui organisait une exposition une fois par an. Donc, tous les ans, on essayait d'y aller et de proposer un truc. Alors, on avait fait une exposition qui s'appelait, je ne me souviens plus du nom d'ailleurs, mais enfin, c'était marrant parce que les gens, en fait, ils étaient dans le noir et ils visitaient l'expo avec une lampe de poche.
Ah oui, ouais.
Donc, il y avait de la musique, il y avait des textes, il y avait des tableaux, il y avait des photos. On essayait de faire quelque chose de global, enfin, un truc qui réunissait plusieurs formes d'expression, quoi.
Et donc là, quand même, tu es confronté au monde professionnel de l'art, qui est un lieu d'exposition,
oui.
d'autres artistes, qui parmi eux, peut-être certains, ont vécu ensuite. Et est-ce que ça te titille, là ? Est-ce que ça te pose des questions ? Tu te dis, bon, le labo, là, c'est génial, on y est bien, mais peut-être que je pourrais vendre des tableaux ou...
Je me suis jamais en fait vraiment positionné comme ça. Je pense que j'avais un blocage à la base.
Ah, alors blocage, je sais pas de quel ordre.
Bah, de l'ordre de, il y avait une espèce d'interdiction d'être artiste, quoi. Il y avait quelque chose de, il y avait une malédiction.
Ah oui, tu crois que
C'est-à-dire que je reviens sur mon père. Je vais pas faire un truc freudien, mais
non, c'est pas le lieu, non.
Mais mon père, on avait un voisin qui était peintre, mais qui était lui artiste peintre et qui vivait de sa peinture, enfin qui en vivait pas toujours très bien, mais en tout cas qui faisait que ça. Mon père lui achetait d'ailleurs quelques tableaux de temps en temps. Mais je sentais qu'il y avait à la fois chez mon père une admiration pour cet homme, mais en même temps beaucoup de mépris quand même un petit peu.
Ah oui, ça arrive, mais ça arrive. Ouais, les artistes, soit on les vénère, soit on en fait des parias, c'est terrible.
Donc, dans ma tête, il y avait quand même quelque chose comme ça qui restait. Parce que bon, j'étais enfant, moi, quand j'allais chez ce monsieur, je me souviens, parce que j'allais souvent chez lui, hein, je voyais des tableaux qui étaient en train d'avancer du jour au lendemain. Je voyais l'évolution de la toile qui prenait forme. Il y avait aussi toutes les odeurs, les couleurs.
Enfin, oui, c'est fort, ça, comme impression.
C'était fascinant. Ouais. C'était d'ordre de la magie, quoi.
D'accord, mais tu ne t'autorisais pas plus tard à te dire... Bah, c'est peut-être un métier, c'est peut-être plus qu'un rêve, c'est peut-être...
Non, je me suis jamais autorisé à envisager ça vraiment comme un métier.
Bon.
Enfin, en tout cas, au début.
Mmh. Ah d'accord, en tout cas au début, alors allons un peu plus loin que le début.
Parce qu'au début, si tu veux, quand je faisais...
Mais au début, heureusement, il ne faut pas être naïf non plus.
Bah, ça dépend, moi j'ai un ami qui fait de la BD aujourd'hui et qui a toujours estimé qu'il allait faire de la BD et il a réussi à faire de la BD et il en vit très bien.
Ouais, c'est le dessinateur de Spirou, c'est.
Oui, c'est ça, c'est Émile Bravo. Bon, bah voilà.
Oui, c'est énorme, mais bon, voilà. Ouais, c'est vrai. Tu avais un exemple devant toi, en plus, c'est ça qui est
Oui,
étonnant. Ouais.
il était. Je le connais depuis la sixième, on est toujours amis. Voilà, j'avais un bel exemple de quelqu'un qui voulait faire quelque chose et qui l'a fait. Donc, non, c'était possible. C'était juste, je pense, une interdiction que j'avais de moi envers moi.
Ok, bah, alors, ça a peut-être évolué, parce qu'à un moment, tu t'es. Moi, après, il y a. À un moment, tu as rencontré la femme avec qui tu habites, enfin,
Oui,
voilà,
Marie.
avec Marie, et là, à un moment, quand même, ensemble, vous avez décidé que, de ton côté, tu pouvais prendre une année sabbatique pour justement aller plus loin.
Ben, en fait, Marie voyait que c'était quelque chose que j'aimais faire, enfin que voilà, qui était vital pour moi. Quelque part, faire de la peinture, faire de la musique, il y a quelque chose de vital pour moi là-dedans. Et elle se disait, c'est dommage. Qui se réalise pas vraiment dans ce qu'il aime faire, quoi. Enfin, elle avait envie que je sois dans la plénitude.
Merci
Non,
Marie.
non, mais c'est vrai,
Mais
c'était.
oui, du coup, tu as poussé un peu plus. Et alors, si on fait une analyse, parce que bon, ça a pas comment. Le jackpot est pas tombé, mais.
Bah, le jackpot n'est pas tombé parce que si tu veux, pour ça, il faut. Bon, déjà, il faut produire. Bon, ça, c'est pas quelque chose qui est trop compliqué pour moi. Par contre, après, c'est. Rencontrer les gens pour les vendre, pour les exposer. Voilà, c'est tout le côté relationnel qui va avec. Et ça, je ne me sentais pas vraiment à l'aise. Alors, c'était peut-être un manque de confiance dans ce que je faisais. Pourtant, les gens, j'avais des bons retours. Quand je faisais des petites expos, les gens, j'ai vendu. Les gens.
Oui, tu as vendu jusqu'à 1 200 euros, tu me disais, un
Ouais,
tableau. C'est pas mal,
à une
c'est
maison
bien.
d'édition, qui m'ont même invité au restaurant
En
après.
plus, une institution, enfin une maison d'édition,
Ouais,
ouais.
une maison d'édition pour mettre dans leur bureau.
D'accord.
Non, non, mais je te dis, c'était pas.
Bon, moi, je ne veux pas le considérer comme un. On s'en fout de ça, un échec ou pas un échec. La question, c'est bon, c'est possible. C'est peut-être pas pour moi. En tout cas, ça marche pas suffisamment pour que je puisse en fermant les yeux comme ça, dire bon, je me balance là-dedans. Donc, tu as continué à sur ta façon initiale d'envisager vie personnelle, vie créative et vie professionnelle, c'est-à-dire d'articuler deux activités. Et bah, c'est là que donc avec Marie, vous êtes venu en Bretagne et que tu es arrivé. À Brest, où tu as fait d'abord homme de ménage, femme de ménage, homme de ménage.
Ouais, homme de ménage, ouais, à l'IUT de Brest. Ouais.
Et alors là, déjà, peut-être une question, pourquoi quitter cet endroit où tu étais, le laboratoire
À Orsay,
Ouais, Orsay, ouais.
où j'étais si bien.
Où tu étais si bien, ouais.
J'étais très bien, mais bon, avec Marie, on avait le projet de vivre au bord de la mer, donc en région parisienne, c'est assez rare.
Ouais, c'est vrai,
Donc,
il y a des lacs.
il fallait choisir une destination. On avait tenté Toulon l'année d'avant, enfin avant notre départ en Bretagne, on avait tenté le sud, où on avait vraiment super mal vécu, on n'avait rencontré personne, c'était pas une région qui nous a plu. Et Marie avait des connaissances en Bretagne, des amis de ses parents, tout ça, qui nous ont accueillis. Et puis j'avais aussi des copains du labo là, d'Orsay qui avaient des maisons de campagne du côté de Callac. Enfin, bon, donc la Bretagne, on y venait de temps en temps. Et c'est comme ça que j'ai demandé ma mutation en fait pour la Bretagne.
D'accord,
Pas
mais t'as.
spécialement pour Brest, mais j'avais demandé la Bretagne en général. Et c'est Brest qui m'a proposé ce boulot. Alors ce n'était pas le boulot de mes rêves. Je me suis dit, bon, bah, je vais faire ça un an ou deux. Et puis après, j'ai trouvé un autre poste. Mais en fait, ça a duré 5 ans ou 6 ans,
Ah oui.
l'histoire. Ouais. À la fin, je déprimais vraiment, quoi.
Et à ce moment-là, tu continuais à peindre et à faire la musique?
Ouais. Bah oui, parce que si tu veux, là, j'en avais encore plus besoin, quoi. Parce que j'avais un sentiment. Alors, c'est personnel, hein, j'avais un sentiment d'un peu de honte de faire ce boulot-là. Quand je rencontrais des gens et qu'on me demandait qu'est-ce que vous faites dans la vie, j'étais assez mal à l'aise. Donc, le côté artiste.
Oui, on a besoin de, ouais,
J'avais
de.
besoin de contrebalancer le truc et donc je faisais des expos. J'étais assez actif à cette époque-là parce que justement, ça me donnait de l'énergie pour. Il fallait que je compense, quoi.
Moi, je connais une directrice de bibliothèque qui dit que la seule personne dont on ne peut pas se passer en bibliothèque, c'est la femme de ménage.
Oui, non, mais les gens qui font le ménage sont très utiles. Hein. C'est juste que moi, j'étais pas très à l'aise avec ça.
D'accord.
Et puis, bon.
Mais bon, en tout cas, ça te permet quand même de
Ah, bah, ça.
contribuer aux revenus du ménage
Oui, tout à
et
fait. Oui.
de continuer à peindre, à faire de la musique.
Oui,
Vous
oui.
avez eu des enfants aussi, donc vous avez une vie tout à fait normale d'un point de vue économique aussi. Et finalement, quand même, tu as réussi à rentrer comme magasinier donc, à la bibliothèque universitaire de Brest. Ça a changé quelque chose dans cette façon d'équilibrer ta vie entre métier plus ou moins alimentaire, mais pas magasinier, c'est moins dur que femme de ménage.
Si tu veux, pour moi, travailler en bibliothèque, c'était déjà moins alimentaire parce que moi, enfin, ma culture enfin, artistique et musicale, je l'ai beaucoup fait à la bibliothèque.
Ah oui.
Quand j'étais jeune, quand j'étais ado, je passais mon temps à la bibliothèque, j'allais voir les bouquins d'art. Et puis après, les gens qui bossent dans les bibliothèques te remarquent, ils voient que tu t'intéresses à certaines choses, donc ils te proposent des choses aussi. Enfin, donc c'était un milieu que j'aimais bien. J'avais confiance dans ces gens-là. Je trouvais que c'était intéressant. Donc quand je me suis posé la question, qu'est-ce que tu peux faire autre que balayer ou être dans un labo, bah, j'ai pensé aux bibliothèques et j'ai fait une formation. J'ai demandé un congé en fait de formation professionnelle à l'IUT qui a été accepté. J'ai parti pendant un an à Rennes à la bibliothèque départementale.
Ah oui, je vois,
Avec
ouais.
l'ABF pour faire une formation de magasinier, en fait.
Je précise que je travaille aussi dans les bibliothèques. Enfin, c'est là qu'on s'est rencontrés.
Ouais.
Et pour Marie, disons que Marie a été interviewée sur un bon boulot qui est sur un modèle économique tout à fait différent qu'elle a pourtant partagé avec Thierry, mais qui est tout à fait
Ah oui.
différent, voire opposé. C'est intéressant de confronter les deux. Enfin, je dis ça pour les auditeurs qui auraient envie. Mais c'est intéressant ce que tu dis à propos des bibliothèques. Effectivement, moi aussi, dans les bibliothèques, j'ai senti quelque chose de plus qu'alimentaire, parce que c'est un environnement assez agréable et qui, avec des portes partout
Ah oui.
enfin, quand on
Puis
est curieux, les bibliothèques, c'est
tu
un bel
découvres
endroit.
des mondes à chaque travée, quoi.
C'est ça, ouais, à chaque travée, à chaque livre, à chaque personne qui vient t'emprunter un bouquin, ouais. C'est vrai. En même temps, la question m'intéresse. Alors, je précise que j'étais aussi magasinier. Moi, j'ai pas fait le même chemin que Thierry, mais voilà, j'ai fait un autre choix. Moi, ce qui me faisait peur, c'est l'usure.
Ah oui.
La question de l'usure.
Elle se pose, hein, le...
Ouais. Comment la décrire? Parce que c'est un métier. Effectivement, on voit des gens, on est avec des bouquins. C'est calme, c'est bon, c'est payé. Ça pourrait être mieux payé, mais ça va.
Non, puis c'est intéressant parce que enfin, tu as un sentiment d'utilité, c'est ça, moi, ce que
Ah
j'en ai
oui.
retiré, c'est que tu as des gens qui viennent avec une demande et tu vas répondre à cette, enfin, tu vas tenter de répondre à cette
Ouais,
demande
tu leur amènes ce qu'ils veulent, ouais.
et puis c'est du savoir généralement, donc il y a pas de côté marchandise,
Oui.
c'est pas mercantile, enfin, tu vois,
C'est sûr.
c'est quelque chose de noble.
C'est
Je
un
sais.
service public d'État.
Voilà,
Très beau
et
service public,
c'est
ouais.
plaisant, c'est plaisant de faire partie de ce genre de choses, quoi. Après, c'est
Ah,
vrai qu'il
comment l'usure arrive alors? Ça,
bah,
c'est
l'usure, si
intéressant.
tu veux, elle arrive parce que bah, au bout d'un moment, tu as l'impression de faire toujours. Déjà, tu es toujours avec les mêmes collègues,
Oui.
toujours aux mêmes heures, même si en bibliothèque, on n'avait pas des heures de bureau, on ne faisait pas 8h, 17h tous les jours, on avait des jours où on finissait à 19h, d'autres où on finissait plus tôt. Enfin, donc, il y a quand même un côté moins routinier que quand, par exemple, j'étais au ménage où j'avais des horaires vraiment fixes. Mais il y a quand même, au bout d'un moment, moi, au bout de 10 ans, bah, je me suis dit, bah là, ouais, je me sens un peu au bout de l'expérience, quoi.
C'est ça, le problème, c'est qu'à un moment, entre-temps, on a vieilli, entre-temps, on a
Ouais, et puis après,
fermé
bah,
quelques portes.
oui, c'est ça. Je me suis dit, je ne vais pas commencer à passer des concours maintenant. Ça n'aurait pas de sens.
Bon.
Donc ouais, je savais pas trop quoi faire en fait. J'étais un peu perdu.
Un jour, tu m'as dit, j'ai l'impression de passer exactement la même journée
Ah
qu'hier.
oui,
Ouais.
c'est comme dans ce film là où le mec se réveille tous les jours, il revit la même journée. Bah, j'en étais presque arrivé
C'est ça, ouais.
à ce genre de choses.
Bon, ceci étant, tu as toujours continué encore à peut-être moins de peinture, enfin je sais pas, peinture, musique à ce
Ça
moment-là.
dépend, j'ai des périodes en fait, c'est des cycles. Il y a des fois, c'est plus la peinture. Bon, aussi la peinture, c'est plus dans des lieux où j'ai de la place. La musique, c'est quelque chose que je peux faire sur un ordinateur portable, donc j'ai pas besoin d'espace. Enfin, ça dépend. Il y a des périodes où je suis plus attiré par faire de la musique et d'autres plus par la peinture. En ce moment, c'est la musique.
Et si on compare, on va dire que tu es magasinier, au moment où ça passe bien, au début, bon, voilà, enfin, ça a duré quelques années sans douleur, avec plaisir même, dans un endroit agréable. Ça, c'est une activité qui est agréable. Moi, je l'ai exercée, je la connais, elle est agréable, il faut le dire, hein, et utile. Et à côté de ça, il y a la peinture, la musique, qui aussi est agréable et aussi utile. Si on les comparait, qu'est-ce que ça, du point de vue de ce que ça apporte à un individu, qu'est-ce que donne l'un, qu'est-ce que donne l'autre, est-ce qu'il y a du comparable ? Question difficile à laquelle je ne
suis trouvé moins créatif à la bibliothèque.
Ouais.
Oui. J'ai essayé des trucs, mais.
Oui, il n'y a pas le milieu pour accepter parfois aussi que ça bouge.
Non, et puis bon, bah, les étudiants, ils ont aussi des contraintes. Enfin, j'avais essayé de faire des tables, des petites tables pour leur proposer des ouvrages un petit peu différents. Moi, j'étais en secteur économique, donc j'avais envie de proposer des pistes un peu autres.
Oui, ouais, bah, les nouveaux, comment ça s'appelle, les économistes atterrés.
Voilà, enfin, toute cette école-là. Et c'est vrai que les étudiants n'avaient pas beaucoup de temps à consacrer à ce genre de découverte, quoi. Ils sont pris par autre chose.
Je crois que ça fait partie du métier de bibliothécaire, comme une frustration. Tu arrives avec une mission et la mission, personne ne l'attend, parfois.
C'est ça.
Mais sur la création, alors moi je me suis essayé aussi à la création, j'ai fait du théâtre, et je vois le plaisir immense qu'on a à fabriquer des personnages, des intrigues, des jouets sur scène, etc. Mais je me souviens aussi, et peut-être que pour la peinture c'est pareil, parfois tu es face au vide. Ou alors à quelque chose, tu fais un truc, c'est bien, et puis tout d'un coup, c'est une vraie merde, tu sais pas pourquoi. C'est émotionnellement.
Alors moi, je suis jamais confronté au vide, parce qu'en fait, s'il y a du vide, je le remplis.
Ah.
C'est-à-dire que devant par exemple, une toile blanche, je vais faire une tache, donc la page n'est plus blanche.
Mais t'as pas l'impression quelquefois que t'arrives à rien ou...
Ah si, ça m'arrive. Ça. Oui. Mais j'ai jamais la peur du vide, quoi, parce que je te dis, le vide, je le remplis tout de suite, quoi. Après, des fois, je bosse sur des trucs et puis ça ne marche pas, quoi. Là, t'es mal, quoi.
Ouais, c'est ça. C'est la question que je te pose. Parce que on a déjà interviewé...
Encore, si ça t'arrive une fois et puis que le lendemain, tu te remets à faire un truc et puis que ça marche bien, bon, ça va, tu t'en remets. Mais si ça dure sur une période un petit peu longue où t'es d'échec sur échec...
C'est ça, ça t'est arrivé.
Ça m'est arrivé, ouais.
Mais moi, m'est arrivé aussi en théâtre.
Là, ça plombe, là.
C'est ça. Alors moi, je me dis que peut-être quand tu as une double activité, c'est un peu comme quand tu places ton argent en bourse. Tu ne mets pas les œufs dans le même panier. Et donc, l'artiste qui j'en connais plusieurs. Hein, souvent, ils avouent pas. Ils font part de certaines périodes où c'est très dur parce que émotionnellement, il y a des hauts, il y a des bas, etc. Peut-être que mixer d'un côté, faire d'un côté quelque chose qui t'expose, qui t'investit, mais qui en même temps te fait passer par des montagnes russes,
ouais.
Contrebalancer de l'autre côté par quelque chose d'assez stable, trop stable parce que ça use.
Ouais, c'est
peut-être
facile,
une façon aussi de vivre et qui est une forme d'art de vivre aussi. Je sais pas, est-ce qu'on pourrait dire ça ou c'est un peu excessif.
Tu veux parler de la voix du milieu, quoi.
La voix du milieu. C'est ça. La voix du milieu, c'est la voix que j'explore. Ouais.
Moi, c'est un peu. Enfin, je me dis que c'est celle que j'ai choisie, que j'ai choisie, qui s'est un peu que j'ai choisie et puis qui s'est un peu aussi imposée à moi via mon histoire, quoi.
C'est ça, ouais.
Mais ça serait à refaire. Bon, ça, c'est pas, ça se présentera pas. Hein.
Non.
Mais je ferai autrement.
Ah oui, alors.
Bah oui, je pense que je me lancerai. Enfin, peut-être que je peux dire ça aujourd'hui parce que je suis plus en situation de le faire. Mais
t'es plus sur le sautoir, ouais.
Ouais.
Mais ça nous amène à la question suivante que t'anticipes. C'est moi, je pense toujours aux jeunes.
Ouais.
Je cite toujours Rilke qui a écrit Lettre à un jeune poète, donc où il dit si t'es pas dévoré totalement par la poésie, ne commence même pas. Bref. Et donc il pose la question de l'investissement. Moi, la question que je te pose, c'est au regard de toute cette expérience qui est variée, qui est riche, qui t'a permis de voir l'un et l'autre, à vrai dire, d'avoir des regrets, mais d'avoir des réussites. Enfin bon, bref, ta vie n'est pas finie, et puis tout va très bien, je veux dire. Quelle question devrait se poser un jeune homme, une jeune femme, qui vraiment, peut-être aussi face à un père qui, par exemple, fait pression, ou une mère? Ou un milieu, ou des nécessités terribles, où il faut tout simplement bouffer. Quelles questions devrait-il se poser pour un moment, peut-être se dire non, je vais quand même aller le plus loin possible du côté, par exemple, de la création, ou non, je vais aller. Quelles questions devrait-il se poser pour savoir comment s'orienter dans ce choix difficile, ouais.
Moi, je n'ai pas vraiment de questions particulières. Ce que je me dis simplement, c'est qu'aujourd'hui, de toute façon, il n'y a pas d'emploi vraiment, il n'y a pas de secteur où tu peux dire, je vais, comme nos parents l'ont connu, où je vais commencer ma carrière là, je vais la finir à 60 ans, et puis j'aurai ma retraite. Et puis tout ça. Enfin, on est dans une espèce de monde un peu incertain, où finalement, tout le monde est précaire, où tout le monde est un peu sur le fil. Donc moi j'ai envie de dire bah quitte à être sur le fil bah autant faire un truc qui t'habite quoi.
Oui.
Alors après faut voilà il faut savoir est-ce que c'est vraiment quelque chose d'important pour toi? Est-ce que c'est vraiment et à partir du moment où tu pratiques ton activité de manière récurrente et un peu obsessionnelle parce que les artistes c'est ça quand même.
Oui, c'est de l'obsession. S'il n'y a pas d'obsession, il n'y a pas. Ouais.
Y a quand même le côté obsessionnel. Si t'as pas ce truc-là. Je pense que c'est même pas la peine de te lancer. Je pense qu'il faut être là-dedans, quoi. Enfin, pour moi, la base, c'est ça, quoi. C'est-à-dire, il faut que t'en ressentes un besoin vraiment vital de le faire.
Oui, puis t'as dit deux choses supplémentaires, moi, par rapport à ce que je m'imaginais. C'est un, de toute façon, les boulots aujourd'hui, il y a aussi de la précarité maximale.
Bah oui.
Il y a beaucoup de douleur au boulot. Enfin, c'est un peu le sujet de l'émission. Donc, pourquoi pas aller vers quelque chose qui brille plus pour toi à un moment? Ça, c'est la
Et
première.
puis après, dans les.
Et la deuxième, c'est l'engagement. Tu parlais, tu dis, faut faire, quoi, c'est
Ouais.
ça?
Et puis dans les artistes, il y a plusieurs niveaux, quoi. Je veux dire, moi, par exemple, dans mon monde idéal, c'était pas être artiste comme Picasso. Je tiens pas à être une superstar de la peinture ou de la musique. Moi, ce que je voudrais, c'est vivre, ne serait-ce d'avoir, par exemple, ce que je gagne à la bibliothèque, comme salaire, pour faire mon activité de musicien ou de peintre. Enfin,
C'est
voilà,
ça.
je veux pas casser les murs, quoi. Je veux dire, c'était pas très ambitieux, donc c'était peut-être possible.
Oui, et puis en plus, il y a même un statut d'artiste, enfin, statut d'intermittent du spectacle, pas
Oui.
d'artiste, pas d'artiste. Si, musicien, oui.
Musicien, si. Mais
Oui.
moi, je suis pas vraiment musicien. Moi, je te dis, moi,
Oui, t'es pas intermittent du spectacle, non.
parce que voilà, moi, je vais pas sur scène. Je crée des choses, mais finalement, mon approche de la musique, elle est très liée finalement à l'art plastique, au collage, comme je te disais, à du bricolage en fait. C'est le truc Lego, quoi. Tu vois, quand j'étais petit, je faisais des Lego, et ben, je continue à faire des Lego, mais avec des notes, avec du papier, avec autre chose, quoi.
Ouais, tu t'imaginerais volontiers petit artisan, artiste de artisan de la peinture artistique, artisan de la musique.
Voilà, ouais. Ouais, ça me suffirait, ouais.
Ouais, ça,
Non,
faut.
parce que après, bah, on en connaît hein, des gens
Est-ce que tu connais justement, oui, c'est la question des gens qui vivent cette vie-là que tu décris là?
bah, je connais déjà, bon, bah, Émile qui vit très bien
Mais lui, c'est une star de la BD là. Car...
Ouais, mais enfin, il n'a pas toujours été une star.
D'accord. Mais il n'est pas. Comment. Oui, tu le connais. Il n'est pas débordé de boulot, par exemple. Enfin, complètement envahi sous.
Quand il a fait la série des Spirou, c'est vrai que c'était beaucoup de travail, mais en même temps, voilà, c'est Émile, c'est quelqu'un qui a toujours dessiné. Enfin, moi, depuis que je le connais, depuis quand on était en sixième, tous les jours, il venait avec des planches de BD, enfin, avec des planches de BD où il mettait en scène en fait les profs et les élèves de la classe. Et tous les matins,
D'accord.
avant de rentrer en classe, on lisait un nouvel épisode. Donc, tu vois, voilà,
Ah oui, il allait loin, ouais, d'accord, ouais.
c'était son truc, quoi.
D'accord, ouais. Donc lui, il a certaine manière, il a atteint, ouais, ce. T'en vois d'autres, des gens moins connus que lui, mais qui arrivent à. Parce que c'est le compliqué chez les artistes, tu dis encore une fois, je pense, soit on les vénère, soit on en fait des riens, en fait. Et c'est compliqué parce qu'on n'existe pas dans la vénération, on n'existe pas non plus dans le rien.
Bah, je connais des gens qui ont fait par exemple le choix d'être peintre, mais qui pour quand même assurer un petit peu les revenus vont donner des cours de peinture.
Ah, c'est ça. Oui, ça c'est un compromis. Oui.
Ils ouvrent un atelier
Oui.
et ils donnent des cours à des gens qui veulent bah, faire de la peinture pour s'amuser ou pour progresser ou voilà. Donc en fait, ils restent quand même dans leur domaine.
Oui, il y a des mi-chemins, ouais.
Ils vont pas, par exemple, faire un boulot dans une banque ou voilà. Ils vont choisir quand même de faire quelque chose en rapport avec leur art.
Pour la musique, c'est plus rare, non?
Bah si, il y a plein de profs de. Par exemple,
Oui, des profs de musique, ça existe, bien
moi je
sûr.
vais
Ouais.
te dire, j'ai un exemple de quelqu'un qui malheureusement est décédé, je l'ai appris il n'y a pas très longtemps. J'avais pris des cours de guitare classique à un moment donné. Il s'appelle Eric Sidachetti. C'est un réunionnais, un guitariste classique très 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 fort. Et je prends des cours avec lui, puis au bout d'un mois, il me dit, bon écoute, toi, faire de la guitare, ça ne t'intéresse pas vraiment.
Ah ouais.
Il me dit, toi, ce qu'il faut que tu fasses, c'est que tu achètes un clavier, un ordinateur, et tu composes tes musiques.
C'est lui qui t'a amené
là-dessus ? C'est lui qui m'a dit ça, ouais. Alors sur le coup, j'étais un peu vexé, parce que je me suis dit, bon, mais en fait, il m'avait démasqué, quoi.
Super, ouais.
Et bah, c'est ce que j'ai fait. J'ai acheté un ordinateur, j'ai acheté un clavier, et je me suis fait mes petites musiques.
Ça t'est arrivé à quel âge, ça ?
Bah ça m'est arrivé, j'avais 20... je sais plus... Je me souviens plus, mais enfin c'était les premiers ordinateurs Atari qui faisaient de la musique.
D'accord, donc tu t'es mis assez vite. Dès cette époque, on pouvait.
Lui, il avait ça chez lui parce que bon, lui c'était un musicien professionnel, hein, il faisait que ça. Donc il jouait de la guitare, mais aussi il composait sur l'ordinateur.
Mais alors, peut-être on finira là-dessus parce que finalement, t'as pas réussi quand même. T'as vendu plus de peinture que de musique.
Ah bah ouais.
Qu'est-ce qui a manqué ? Qu'est-ce que
Qu'est-ce qui a manqué ? J'ai quand même consacré plus de temps à la peinture qu'à la musique.
Oui.
Là, en ce moment, il y a une espèce de rééquilibrage qui s'effectue. Je suis plus dans la musique que dans la peinture. Et je te dis, là, j'essaye vraiment de... J'ai travaillé sur deux projets là, cet été. Et là, j'essaye vraiment de les vendre, on va dire.
D'ailleurs, on va conclure hein, parce qu'on arrive à la fin. On va présenter rapidement ton site. Tu peux me dire où on peut le trouver et ce qu'on y trouve.
J'ai une chaîne YouTube qui s'appelle Kitchen Toto.
Kitchen Toto, K-I-T-C-H-E-N.
Comme une cuisine.
Et après Toto. Anglais.
Voilà, Toto. Donc là, j'ai des musiques qui sont en ligne. J'ai aussi un SoundCloud qui est pareil, Kitchen Toto. Puis j'ai un site qui s'appelle Kito, mais de toute façon ça sera en ligne sur le podcast, c'est pour ceux que ça intéresse.
Oui. Tu peux décrire cette musique ? Moi j'ai entendu tout à l'heure un peu Cass Jared, mais bon c'est parce que c'est ma référence. Mais
Ça dépend en fait, là j'ai un projet, donc pour la première fois je me suis donné des contraintes.
Ah, lesquelles ?
C'est-à-dire que je me suis dit voilà, je vais faire une musique qu'avec du piano.
D'accord.
Je vais faire un projet, il n'y aura que du piano. Donc j'ai fait un projet avec 8 morceaux ou 9 morceaux de piano. Et l'autre projet, j'ai fait avec, je m'étais dit, bon, je vais prendre son de synthé, son de clarinette et son de piano. Et j'ai fait un autre projet de 12 morceaux avec ces trois instruments-là.
Tu fais comme Bach, tu te donnes des contraintes.
C'est assez stimulant en fait.
C'est vrai.
Ouais. Finalement, je me suis. Tu pars pas dans tous les sens. Et ouais, c'était intéressant et je vais continuer à travailler comme ça, quoi, je pense. Ouais.
Bon, merci Thierry, merci beaucoup.
De rien, Hervé.
C'est marrant de faire une émission avec. Donc, on travaille ensemble. Hein,
c'est surtout toi qui travailles, hein, moi.
Tu m'as beaucoup aidé sur le son et tu. Non. Enfin, on travaille ensemble. Et donc, j'invite les auditeurs à aller voir ce que Thierry fait. Ça vaut la peine. Il y a aussi d'autres choses. Hein. Par exemple, je me permets de citer, tu as pris à un moment la voix, je ne sais pas si c'est toujours en ligne, la voix de Mohamed Ali, tu as mis une musique dessus.
Alors ça c'est la grosse frustration de ma vie.
Oui, tu n'as pas réussi à en faire quelque chose parce qu'il y avait des droits absolument gigantesques.
C'est pas compliqué. On parle de radio, la BBC qui est détenteuse, je ne sais pas si ça se dit, détenteuse. Détenteur des droits.
Détentrice peut-être,
ouais, enfin bon, des droits en fait sur la voix de Mohamed Ali que j'utilisais dans une de mes chansons, enfin, me demandait 12 500 € pour 41 secondes de son.
Ouais, il ne pousse pas la création. Ouais.
Alors comme j'avais 12 morceaux sur ce projet, je ne sais pas si tu vois, mais il faut vraiment être très fortuné pour... Faut être une maison de disques et avoir l'air insolite pour pouvoir financer ce genre de projet.
Oui, non, mais tu es dans l'œuf là, sur ce projet-là.
Ouais.
Je me permets de mentionner aussi un autre truc que tu as fait, c'est une vidéo où on voit il y a un parallèle entre des gens à la bourse, mais à la bourse dans les années 80, avant les machines, donc les mecs ils hurlent comme des...
Le quatrième plan.
C'est ça, ils hurlent comme des fous.
Et
tu fais un parallèle avec une rave party.
Ouais, c'est une espèce de...
Et avec un discours de Macron.
Oui.
Où tout le monde est sous cocaïne, en gros, à vouloir bouffer le monde, quoi.
Ouais.
Et moi, ça me plaît parce que je pense qu'il y a des gens qui sont comme ça et c'est bien de les, montrer tels.
Je pense que c'est un peu ceux qui ont fabriqué le monde dans lequel on est actuellement, quoi.
Ouais, on va conclure sur cette parole optimiste. Bon, encore une fois, merci Thierry.
Merci Hervé.
Allez, au revoir.
Au revoir.